Oula, ah non, pas du tout. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de budget, les bourgeois libéraux au pouvoir par un fameux coup du sort. Hein, qui aurait pu prédire, comme dirait le mauvais acteur et vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. Donc, un fameux coup du sort a permis à des bourgeois libéraux de présenter leur budget malgré des élections qui ont eu lieu cet été. Un budget qui fait la part belle à l'économie, sauf pour l'armée. Un budget qui privilégie les compétences régaliennes de l'État comme la défense. Un budget de guerre. Ah ben oui, contre les pauvres où la sécurité sociale remboursera moins les frais de santé, où l'éducation nationale voit fondre ses effectifs. C'est pas grave, moi en tant que bourgeois j'ai les moyens de payer d'abord une école privée à mes enfants et en plus je peux lui payer des cours particuliers. Donc où est le problème? Et où l'ensemble des services publics morflent, sauf la justice. Ah, les compétences régaliennes, on vous dit. Ben oui, parce que comme ils vont se révolter tous ces pauvres à un moment, il va bien falloir les punir. D'où l'armée, la défense, la justice. Un budget dans une économie capitaliste basée sur les valeurs libérales. On le dira jamais assez. C'est une économie parmi tant d'autres. Donc, basée sur l'idée que tout est marchandise. Voilà, le libéralisme, c'est ça. Y compris la vie des ressources humaines. Il faut alors rembourser la dette accumulée, oui. Réduire le déficit, bah bien sûr. Voilà ce qui doit orienter l'activité des habitants du pays, et pour l'éternité, hein, puisque en Afrique, ils tentent de rembourser leurs dettes depuis les années 60. Ah bah ouais, c'est bien joué. Hein. Donc ça fait 60 ans déjà, comme le temps passe. Réduire le déficit, rembourser la dette accumulée, voilà ce qui doit nous occuper. Par contre, l'épanouissement, le bien-être, les liens sociaux, la vie en fait, ça c'est totalement secondaire. La gestion économique, voilà l'essentiel, le primordial, la base de tout. Et là, vous qui m'écoutez, vous dites, bah oui, bien sûr. Faut dire que ça fait un bon bout de temps qu'ils nous travaillent en nous faisant croire que c'est ça l'important. Et oui, la bourgeoisie a fini par nous faire croire que ce qui était important, c'est ce qui était important pour eux. La gestion économique. Le nouveau Front populaire s'insurge. Le parti raciste d'extrême droite Rassemblement National fait semblant de défendre le Pékin moyen. Les macronistes et la droite sont satisfaits puisque leur électorat sera très peu impacté par la déliquescence programmée des services publics. Oui, faut dire qu'ils ont un peu de pognon. Et maintenant, il va falloir continuer de marteler que c'est l'économie qui prime et que personne n'y peut rien. Non, there is no alternative, vous avez vu l'accent, comme dirait une certaine Margaret Thatcher. Alors dans les médias, la naturalité de l'économie capitaliste basée sur les valeurs libérales va continuer d'être propagée. Comme ce 27 septembre. Mais que s'est-il bien passé? Eh bien sur France Info, alors que les chiffres de l'inflation tombaient, vous auriez pu entendre ça.
Vous le constatez peut-être sur vos factures, l'inflation continue de ralentir en France et bah même un record à la baisse. En septembre, les prix à la consommation ont baissé d'1,2% entre le mois d'août et le mois de septembre. Jamais les prix n'avaient autant baissé en un mois depuis 35 ans, Sophie Ovigne. C'est donc une...
Vous avez entendu le ton de commentateur sportif? Ouais, même pour des histoires d'économie. Ils peuvent pas s'en empêcher. Bah, il a appris ça à l'école de journalisme, hein, le gars. Alors du coup, en 35 ans, Ah oui, le discours. Eh ben, 35 ans d'ailleurs, ça nous ramène dans les années 80 et la crise inflationniste, notamment liée à la crise pétrolière du début des années 80. Eh ben, un moment où les prix quand même prenaient plus de 10% par an. Je vous assure que là, c'était un petit peu difficile pour le Pékin moyen. Ben alors, ça baisse. Alors, c'est la hausse qui baisse. Hein. Oui, voilà. Ah non, du coup, les prix ne baissent pas. Non, c'est la hausse qui baisse. Mais comme dans les sciences économiques, rien n'est jamais simple. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de loi au sens scientifique dans la science économique. Ensuite, parce qu'elle repose sur la consommation de produits dont la population n'a pas besoin, mais qui servent à créer de la valeur captée par une minorité avide de profit. Alors forcément, quand le Pékin moyen refuse un petit peu de consommer, pourquoi? Parce qu'il a plus de thunes et parce qu'il aimerait bien manger tous les jours. Ça marche moins bien leur truc. La suite.
C'est donc une bonne nouvelle pour les ménages, mais pas pour tout le monde.
Oui, l'inflation sur une année est juste au-dessus d'1% à 1,2%. Alors ça s'explique par la fin des prix élevés du transport pendant les Jeux Olympiques, une baisse des prix de l'essence, mais aussi des tarifs des laboratoires de santé ou même des communications. Vous voyez, toutes les planètes s'alignent pour une baisse des prix inédite, d'autant que côté alimentation, les étiquettes ne bougent plus. Et d'ailleurs, ça y est, c'est perçu par les consommateurs qui ont attendu avant d'y croire, mais on voit les achats alimentaires progresser de près d'1% le mois dernier. dernier. Mais cette inflation si basse, eh bien, commence à inquiéter. C'est le signe d'une activité économique atone, d'une consommation qui patine. Voitures, meubles, c'est parce qu'on n'achète pas grand-chose que les prix stagnent. Et le pire, ce serait une déflation, une baisse des prix. C'est ce que surveillent d'ailleurs tous les experts, parce que le bon chiffre pour l'inflation, l'équivalent d'un 37 degrés pour l'homme, eh bien, c'est autour de 2%.
Eh ben voilà le problème, il faut que la population consomme, alors achetez, achetez tout et surtout n'importe quoi, mais pour faire tourner la machine économique capitaliste et donc ainsi générer du profit, oui, qui sera capté par une partie minoritaire de la population. Et alors, il est où le problème? On vous l'a dit, c'est comme ça que ça marche et il n'y a pas d'alternative. Eh ben pour nous en convaincre, Sophie Auvigne, journaliste conso de la chaîne France Info, fait des analogies naturelles. Elle aligne des planètes et surtout elle explique la normalité du taux d'inflation par la température du corps. Quoi de plus équilibré qu'un corps à 37 degrés Celsius? Ramener la nature dans les analyses économiques libérales en font donc des marques. Ces analyses économiques deviennent des marques de bon sens, puisque c'est naturel. Celui qui peut être qualifié de populaire, le bon sens, voilà l'un des moyens de nous enfumer et faire du système économique actuellement privilégié par ceux qui profitent en faisant croire qu'il nous représente, en faire une nécessité. Et pourtant, l'économie capitaliste basée sur les valeurs libérales est une construction humaine qui peut très bien être remplacée par une autre construction humaine. Et c'est même à nous de décider de cette construction humaine qu'on appelle la société. Ouais, je vous rappelle qu'on est en démocratie. Tiens, à propos de budget, appel à la grève dans le monde de la santé le 29 octobre. Peut-être une date pour le début de la fin du capitalisme. On aurait pu vous parler de logistique. Pourquoi? Parce que ce samedi 12 octobre à 10h, place de la mairie à Cambon, dans la Loire-Atlantique, avait lieu une manifestation contre une plateforme logistique, un entrepôt géant de Cambon. Cambon, donc, un bled qui a la malchance de ne pas être très loin de la nationale qui va de Nantes à Vannes. Du coup, pas de bol, puisque ça peut servir. Donc, préservons notre qualité de vie, notre santé et la nappe phréatique de Cambon. Voilà pourquoi les gens ont manifesté ce matin. Pour les auditeurs du direct, eh bien sachez que ce genre d'entrepôt de stockage se fait aussi dans le coin. En Sarthe, pas moins de 8 lieux impactés, avec parfois double projet, qui ont été dénoncés le 14 septembre lors d'une journée de résistance, durant laquelle des cyclistes partis d'Écomois ont rejoint Le Mans et fini à Trangé. Écomois, Trangé, deux communes où des entrepôts géants veulent s'implanter. Pourquoi des riverains, des habitants se constituent en association pour empêcher ces implantations? Eh bien, cette semaine, on inaugure une petite série pour en savoir un peu plus sur les différents projets avec un générique qui rappelle les conditions de travail dans ce genre d'entrepôt. Oui, il y a eu déjà des documentaires sur le sujet. Quand on est préparateur de commandes, on subit un certain nombre de choses.
J'attends, mais ça devient insupportable, je deviens fou. Je m'appelle Jean-Marie, je fais partie du collectif qui est contre l'entrepôt à Écomois et je représente un petit peu plus les commerçants et artisans qui vont perdre beaucoup. Alors l'entrepôt est prévu sur une empreinte de 7,5 hectares, complètement bétonnée, et l'entrepôt lui-même va faire 2,5 hectares. Au niveau de dimension, donc représenter à peu près une longueur de 200 mètres sur 15 mètres de haut.
Qu'est-ce qui va se passer dans ces entrepôts? On entend parler d'entrepôts logistiques, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?
Alors pour l'instant, c'est un investisseur a priori français et canadien qui va construire, et le bâtiment devrait aller à une entreprise qui pour l'instant n'est pas définie, mais il se dit que ça serait Sephora.
Donc l'idée, c'est pour l'ouest de la France, enfin une grande partie du territoire, installer des stocks pour cette entreprise.
Exactement. Donc là, on est sur un nœud autoroutier, donc sortie Écomois. Et on a, nous, à peu près 1600 semi-remorques à l'année qui vont venir et repartir pour 60% par l'autoroute, mais tout le reste par les petites routes et nationales.
Donc en termes écologiques, pour le bien-être des habitants, ça risque d'être terrible.
Eh bien oui, on a pas mal de petites départementales qui vont être sillonnées par ces semi-remorques, des porteurs 10, 12, 19 tonnes, voire 26 tonnes. Et pour vous donner un ordre d'idée, une semi-remorque, quand c'est déchargé, ça représente entre 4 et 5 petits camions qui vont sillonner la route. Donc c'est énorme.
comment les autorités locales, municipales, etc. justifient cette implantation ?
La communauté de communes avec qui nous avons eu un rendez-vous, donc Madame Dupont ainsi que des techniciens, nous ont proposé de rencontrer l'investisseur. Pour l'instant, nous n'avons pas de retour. L'argument, c'est tout simplement les emplois qui vont être précaires, il ne faut pas se le cacher, et surtout de désendetter la communauté de communes, puisqu'a priori, la communauté de communes est endettée à 900 000 euros et le terrain a été vendu 1,2 million.
Donc c'est essentiellement une affaire de gestion, une affaire financière, mais avec des conséquences qui sont importantes pour les populations.
Pour les populations, pour les routes, pour l'environnement de façon générale.
Alors est-ce que vous avez une actualité particulière ?
Oui, tout à fait. Nous faisons une réunion publique le 2 octobre à 20h30, salle polyvalente d'Écomois, appelée maintenant la salle des quatre vents. Donc nous invitons le maximum de gens qui seront intéressés de connaître le projet. On essaye d'en savoir un petit peu plus avant cette réunion publique. Ça ne sera pas la dernière, c'est sûr, parce qu'on a décidé vraiment de se battre.
Eh oui, se battre. Pourquoi ? Ben parce que vous avez vu la taille de l'entrepôt, vous avez vu les conséquences, enfin entendu les conséquences. Une cinquantaine de personnes présentes à la réunion d'après un article du Ouest France du 9 octobre. Si vous habitez près d'Écomois, on vous enjoint à contacter l'association Auré de Bercé Bélinois Environnement à l'adresse suivante roseline.levrard avec un D à la fin, roseline.levrard@gmail.com.
J'attends, mais ça devient insupportable, je deviens fou.
On aurait pu vous parler de la répression qui s'accentue dans les colonies françaises, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Martinique, avec les coups de menton du tricheur d'Interville qui nous sert de ministre de l'Intérieur, celui qui veut remettre en cause l'état de droit et qui occupe l'espace médiatique à la manière d'un vulgaire Nicolas Sarkozy singé en son temps par l'humoriste d'extrême droite qui s'étouffait quand on lui parlait de violences policières en pleine affaire George Floyd en 2020. Vous aurez reconnu un certain Gérald Darmanin. Ces trois personnages sont de la même eau, arrivistes consommés, ils sont prêts à tout pour accéder au pouvoir. Dans le cas de Bruno Retailleau, qui nous sert actuellement de ministre de l'Intérieur, cela se double d'un idéologue très impliqué depuis toujours dans l'antimodernisme catholique. C'était mieux avant. Et surtout avant la révolution de 1789, quand chacun était à sa place et que le tiers-état craignait Dieu. En pratique, rien de nouveau, toujours les coups des franches aux forces de l'ordre avec une primauté à la violence d'état. Quand il s'agit des colonies, c'est encore plus clair. Le racisme d'une grande partie des flics est Pandore. Je rappelle qu'ils sont majoritaires à avoir voté pour l'extrême droite en 2017 et en 2022, peut librement s'exprimer de conserve avec le racisme systémique du colonialisme. On est bien loin des Lumières et c'est ça qui leur plaît à nos ministres de l'Intérieur. Mais finalement, on a préféré vous parler d'écologie sociale. Le week-end des 28 et 29 septembre avait lieu un forum interassociatif à la chapelle Saint-Aubin sur le thème du communalisme et de l'écologie sociale avec notamment l'intervention de Floréal Romero. Floréal Romero était lui présent le jeudi 26 septembre pour présenter son livre « Agir ici et maintenant » et qui était sous-titré le livre « Penser l'écologie sociale » de Murray Bookchin, paru en 2022 aux éditions du Commun. Il était présent à la librairie Thuard où nous l'avons rencontré. Alors déjà on lui a demandé de se présenter, et devinez, il l'a fait.
Bon, moi je suis Floréal Macaro Romero en fait, et je suis agriculteur, je travaille avec des AMAP, je cultive des avocats en Andalousie, à Malaga, et je travaille avec des AMAP, j'ai à peu près une trentaine d'AMAP en France, donc on envoie des fruits, ceux qui n'existent pas en France quoi, évidemment, mais tout en bio évidemment. Voilà. Et puis, en 1987, on a essayé de fonder un éco-village. Ça n'a pas marché. Et à la suite de ça, j'ai essayé de réfléchir pourquoi. Bon, j'en suis venu à essayer de comprendre et développer l'écologie sociale. J'ai écrit un livre, donc, dans la collection des précurseurs de la décroissance. Et j'ai publié un premier livre avec Vincent Gerbert qui s'appelle Murray Bookchin pour une écologie sociale libertaire. Donc, voilà. Et puis, à la suite de ça, j'ai fait des tournées en France pour expliquer ce que c'était vraiment que l'écologie sociale, pour faire surtout les groupes décroissants m'ont demandé de venir exposer mon point de vue, notre point de vue depuis l'écologie sociale sur la décroissance. Et à la suite de ça, il y a eu tellement de questions que je me suis dit, ben, il faut que j'écrive un livre en fait pour expliquer tout ça. Et donc voilà, c'est le livre que je présente ce soir ici dans la librairie Thouars. Et voilà, j'espère que j'apporte des éléments de réflexion qui peuvent servir à changer le monde en fait, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin.
Eh oui, on aurait besoin de changer le monde. Et c'est pour ça que, durant la dernière émission, nous avons donné la parole à Floréal Romero sur l'écologie sociale de Murray Bookchin. Pour résumer, voilà des extraits d'un texte du même Murray Bookchin présentant cette fameuse écologie sociale, un texte qui date de 1988. Aucune libération n'est possible, aucune tentative d'harmoniser les rapports humains et les rapports entre les hommes et la nature ne pourra réussir si l'on n'a pas éradiqué toutes les hiérarchies. Et pas seulement les classes sociales, toutes les formes de domination et pas seulement l'exploitation économique. Ces idées constituent le cœur même de ma conception de l'écologie sociale. Je souligne l'adjectif « social » en matière écologique pour introduire un nouveau concept clé. Aucun des principaux problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne pourra être résolu sans un changement social profond. Les implications de cette idée n'ont pas encore été assimilées entièrement par le mouvement écologique. Si on les porte à leur logique conclusion, cela signifie qu'on ne peut pas songer à transformer la société actuelle un petit peu à la fois par de petits changements. En outre, ces petits changements peuvent n'être que des coups de frein réduisant un peu la vitesse effrénée avec laquelle la biosphère est en train d'être détruite. Il continue. La nature de cette société écologique exige aussi des réflexions et des débats sérieux. Certaines conclusions sont évidentes. Une société écologique doit être non hiérarchique, sans classe, si l'on veut éliminer l'idée même de domination sur la nature. À ces sujets, on ne peut éviter de revenir aux fondements de l'anarchisme tels que les propose un Kropotkin, aux grands idéaux éclairés de raison, de liberté, d'émancipation par l'instruction, tels que les propose un Malatesta ou un Barnéry. Mieux encore, les idéaux humanistes qui guidèrent par le passé les théoriciens de l'anarchisme doivent être retrouvés dans leur entièreté et prendre la forme d'un humanisme écologique qui incarne une nouvelle rationalité, une nouvelle conception de la science et de la technologie. Ensuite, dans sa préface en question, il termine. Le message de l'écologie sociale n'est ni primitiviste, ni technocratique. Elle cherche, cette écologie sociale, à définir la place de l'humanité dans la nature, place singulière, extraordinaire, sans tomber dans un monde préhistorique antitechnologique, ni partir sur un vaisseau de science-fiction. On reconnaîtra là tous les délires de certains qui sont pour une écologie profonde où il ne faudrait rien toucher, et tous les délires, alors là, ils sont encore plus présents dans les sphères médiatiques, de ceux qui veulent nous faire croire que c'est la technique, et encore plus de technique et toujours plus de technique qui va nous permettre de sauver le monde en oubliant toutes les difficultés que peuvent générer les nouvelles technologies dont on a rarement intégré les conséquences. Regardez le nombre de zombies que vous croisez dans la rue avec les téléphones portables maintenant. Je crois que ça n'avait pas été testé auparavant. Nos interventions peuvent être créatrices ou destructrices, continue Murray Bookchin, à propos des interventions des humains sur le monde naturel. Et c'est là le plus grand problème, dans toute réflexion sur nos interactions avec la nature. Si nos potentialités humaines sont énormes, rappelons-nous aujourd'hui, nous sommes encore moins qu'humains. Notre espèce est encore divisée par des antagonismes entre les âges, les sexes, les classes, les revenus, les ethnies, etc. Il est absurde de parler de l'humanité en termes zoologiques comme le font aujourd'hui tant d'écologistes, de traiter les gens comme une espèce parmi d'autres et non comme des êtres sociaux qui vivent dans des créations institutionnelles complexes. Une humanité éclairée, consciente de toutes ses potentialités dans une société écologiquement harmonieuse n'est qu'un espoir et non une réalité présente. Un devoir être, non un étant. Eh oui, la philosophie, tout ça. Tant que nous n'aurons pas créé cette société écologique, nos capacités de nous entretuer et de dévaster la planète continueront de faire de nous une espèce encore moins évoluée que les autres. Parvenir à notre pleine humanité est un problème social qui dépend de changements institutionnels et culturels fondamentaux. Ne pas le voir, c'est réduire l'écologie à la zoologie et faire de toute tentative de réaliser une société écologique une chimère. Nous voilà donc un petit peu à niveau, au niveau de l'écologie sociale, la philosophie développée par Murray Bookchin. Eh bien, continuons avec Floréal Romero, invité à présenter son livre « Agir ici et maintenant » sous-titré « Penser l'écologie sociale » de Murray Bookchin, paru en 2022 aux éditions du Commun à la librairie Thuard fin septembre, pour nous parler du municipalisme libertaire.
On a parlé des différentes valeurs qui étaient défendues dans l'écologie sociale, mais il y a donc une déclinaison de cette écologie sociale qui est le municipalisme libertaire, qu'il appellera après communalisme, c'est-à-dire une mise en pratique de cette écologie sociale. Le municipalisme libertaire, est-ce qu'on peut dire qu'il est directement contre la démocratie représentative, mais pour mettre quoi à la place ?
Oui, en fait, Murray Bookchin, pour ce qui est du communalisme, s'est beaucoup inspiré de la Révolution espagnole. La Révolution espagnole, même si elle ne se revendique pas du politique, et avait créé des institutions politiques, on peut dire, puisque c'est des institutions où on prend des décisions ensemble. Donc ça, c'est le pouvoir de créer. Et ça, on peut dire que c'est du politique. Comme Pierre Clastres le définissait, il n'y a pas de groupe humain sans politique, dans ce sens de décision. Hein. Aristote a parlé avant de l'animal politique qui est l'être humain. Et c'est vraiment vrai, dans les, même les plus petits groupements, on se retrouve ce phénomène politique qui traverse tous les groupes humains. Et si on ne repère pas le pouvoir, justement, on va être dans l'incapacité de changer ce rapport de domination. Et lorsqu'on sait où le pouvoir, on le situe, on décide où il se trouve, à ce moment-là, on est dans un processus d'autonomie politique. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et à ce cas-là, on est effectivement dans une tension avec la politique politicienne, c'est-à-dire avec l'économie politique qui a été mise en place par la bourgeoisie, qui essaie d'éviter que le peuple reprenne en main sa politique. Parce qu'en part, on pourrait dire, même dans les communautés paysannes, si vous voulez, eh bien, on parlait, des femmes avaient autant de pouvoir de décision que les hommes. Et après, petit à petit, eh bien, elles ont été éliminées du paysage politique, et après, on les a réintroduites, mais quand déjà le politique était perverti par la politique. C'est différent. Donc le projet communaliste, le projet communiste, c'est vraiment de créer des organes politiques en tension avec ceux de l'État, contre ceux de l'État, jusqu'à créer un rapport de force qui lui soit favorable et alors opérer le basculement. Évidemment, ça ne va pas se faire facilement. Il n'y a rien de facile là-dedans. Je le répète, c'est extrêmement difficile. Mais si on tient compte de toute notre expérience depuis des siècles, je pense qu'on peut y parvenir, et il le faut le parvenir, parce que c'est ça ou la mort, c'est l'utopie ou la mort. Quelqu'un l'a dit avant nous, mais je crois qu'il avait tout à fait raison.
Floréal Romero fait référence à René Dumont, agronome de son État, qui a représenté l'écologie politique à l'élection présidentielle de 1974 et qui a donc écrit un livre intitulé « L'utopie ou la mort ». Un livre assez daté qui posait de bonnes questions, mais un peu trop de références à la Chine à mon goût. Le René Dumont en question a continué son action. Et il faisait un peu moins référence à la Chine sur le tard. Revenons à Floréal Romero, qui nous parle de la mise en œuvre pratique de l'écologie sociale à travers le municipalisme libertaire, que l'on appelle aussi le communalisme.
Alors, au-delà de la démocratie représentative, donc on la laisse pas de côté, elle existe, oui. Mais il faut réaliser des institutions en parallèle. Voilà. À quoi pourrait-elle ressembler ?
En fait, c'est la démocratie directe. On peut dire, on a des exemples concrets, eh bien, c'est par exemple le Chiapas, les Zapatistes au Chiapas, comment ils font ? Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des décisions en communauté. Donc ça ne peut pas se prendre avec des grandes assemblées, mais on peut dire que même il y a des cas de figure où il y a 4000 personnes qui sont en train de prendre des décisions. Quoi. On envoie des mandatés qui sont élus pour accomplir quelque chose de bien concret qui a décidé. Donc c'est un mandat impératif, mais révocable à tout moment. Si la personne ne l'accomplit pas, on la désiste, quoi. C'est clair, elle ne sert pas, elle n'accomplit pas ce qu'on a décidé. Et donc, voilà, ça, c'est justement la base, c'est le quartier, c'est le village. On va dire, le fédéralisme, c'est au niveau d'une région. On pourrait parler de biorégionalisme aussi, parce qu'on va tenir compte des éléments de la nature qui permettent une cohérence dans l'accomplissement des travaux qu'il faut pour les besoins de la communauté. Donc. Et puis, après, on va fédérer, donc, donc ces régions, ces lieux entre eux et confédérés au niveau plus grand, plus large, quoi. Au niveau mondial même, on peut faire une confédération, comme on avait aussi parlé et qui ont essayé de mettre en place les Kurdes. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose de concret. D'ailleurs, il y a des organisations qui sont confédérées, comme la Confédération paysanne, la CNT par exemple, Confédération nationale du travail, etc. Donc non, c'est très bien que ça peut fonctionner. Mais les sapatistes, par exemple, pour leur mandater, ils n'ont aucun privilège. Bien au contraire, par exemple, pour faire en sorte que la famille continue à vivre, cette famille qui a été amputée d'un de leurs membres, ou la communauté qui a été amputée d'un de leurs membres, eh bien, la communauté entière aide ces familles à vivre, à continuer à vivre. Et puis, voilà, la personne qui part, elle a ses frais couverts, mais elle n'a pas une paye spéciale pour faire ce travail qu'elle doit faire, quoi.
Le seul pouvoir qu'elle possède, c'est celui qui lui a été octroyé par l'Assemblée pour organiser, pour Exactement. Faire quelque chose de bien précis.
Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, il n'a pas de pouvoir autonome, cette personne. Il représente l'Assemblée qui a décidé quelque chose, il doit faire ce que l'Assemblée a décidé.
Ce qui implique que si les assemblées doivent se réunir régulièrement, puisqu'il y a plein de choses à décider localement pour reprendre un peu le pouvoir, ça implique d'avoir du temps. Est-ce que c'est pas là aussi Oui. que ça devient compliqué ?
Ça, c'était vrai, c'est vrai, c'est un élément à tenir en compte et à ne pas oublier. Il nous faut du temps, effectivement. Alors, comment on peut trouver du temps ? Ben voilà, ça, c'est des questions sur lesquelles je n'ai aucune réponse. Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Par exemple, dans des manifestations, les gens aient à manger pendant le temps des manifestations. Donc, il y a d'autres gens qui essayent pendant un certain temps de trouver les moyens pour produire l'alimentation. Et je n'ai pas réfléchi à la question immédiatement, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Il faut que nous arrivions à gagner du temps. Et si la recherche n'est pas une recherche fondamentale de l'argent, mais c'est une recherche de bien vivre, peut-être on arrivera justement à trouver du temps.
Ah ben là, il est certain que si on ne cherche pas simplement à générer du profit, on s'apercevra qu'il y a une partie de notre temps qui peut être utilisée à organiser la société pour qu'elle soit plus harmonieuse, mais pour la population, hein, pas juste pour une minorité qui a tout intérêt à se payer une 8e piscine ou un 9e 4x4. Eh bien, à propos de libéralisme, du municipalisme libertaire, le communalisme, on continuera la semaine prochaine. Une petite présentation là de ce qui vient d'être dit, le réseau de ravitaillement des luttes du pays rennais par exemple. Oui, on en parlera à ce moment-là. Il nous resterait très peu de temps pour vous dire qu'il y a une manifestation le samedi 12 octobre pour la Palestine et le Liban au Mans, place de la République à 14h. Je vous rappelle quand même que l'armée israélienne maintenant se met à attaquer les troupes de l'ONU. Ah oui, il faut dire que l'ONU est antisémite, il faut dire que le monde entier est antisémite pour un certain nombre de soutiens de l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir actuellement avec des suprémacistes juifs comme ministres. Je vous enjoins à voir un documentaire dont je vous reparlerai la prochaine fois parce que là, j'ai pas noté la référence. On a également une manifestation le lundi 14 octobre. La manifestation en question, c'est surtout une assemblée, l'assemblée du collectif de défense des 200 arbres de l'avenue Bollée et des 200 autres qui vont être victimes des chronolignes. Ça a lieu place des Comtes du Maine lundi 14 octobre à 19h. Allez-y parce que c'est en ce moment que les chronolignes sont en train de se mettre en place. Et bientôt, incessamment sous peu, ils vont peut-être, je dis, c'est la municipalité, commencer à les abattre, ces fameux arbres. Et puis, il se passe un truc fantastique, cette semaine, santé et pesticides, il y a une quinzaine qui a commencé le 30 septembre, et là, deux journées de conférences très importantes, les jeudis 17 et samedi 19 octobre. Le 17, ça sera à la salle des concerts de la médiathèque entre 20h et 22h, et le 19, ça sera de 9h30 à 17h à l'Université du Mans. Plus d'informations sur sart.demosphère.net. sart.demosphère.net. N'hésitez pas à aller voir. Ça sera sûrement des trucs très bien. Et tiens, peut-être préparer une grosse manifestation, voire même plus si affinité, pour le 29 octobre. C'est organisé pour l'instant grève dans le monde de la santé. Mais pourquoi pas s'y associer, aller un peu plus loin, les soutenir, voire, je rappelle que dans le privé, on peut se déclarer en grève
le matin même de sa prise de fonction. Dans le service public, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, ben, en attendant de foutre à mal l'ensemble des hiérarchies et de mettre en place une société écologique humaniste, ouais, parce que c'est ça qu'il va falloir faire si on veut pas subir un peu trop le libéralisme actuel et puis bah, la destruction de nos milieux de vie et de nos liens sociaux, eh bien, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.